Je vais donc passer maintenant la parole à Thierry Rousselin. Thierry Rousselin, qui est consultant en observation spatiale et spécialiste des applications d'imagerie et de cartographie spatiale, et qui va nous parler de nos attitudes un peu ambiguës face aux technologies d'identification et de surveillance.
Merci, bonsoir. Il me revient le difficile exercice d'être le dernier à parler en exposé. Donc, en gros, les autres ont déjà tout dit. Donc, je vais juste essayer de repointer deux, trois choses qui me paraissent importantes dans notre propre comportement. On a beaucoup parlé de l'État. On a beaucoup parlé des institutions, de notre relation aux institutions, mais on a aussi commencé, au travers d'un certain nombre d'exposés, à analyser que nous avons notre propre rôle dans le système. Et ce qu'on va essayer de regarder, c'est comment nous sommes à la fois victimes, mais aussi extraordinairement complices de la mise en place du système. Alors, ce qui est fort à constater, c'est que notre dualité, elle est à la fois individuelle et collective. Et ce que je vais essayer de faire en quelques minutes, c'est d'aborder quelles peuvent être les raisons pourquoi on accepte de rentrer dans un système de surveillance, dans un système automatisé d'identification via ses multiples formes. On a beaucoup parlé aujourd'hui de la vidéosurveillance, des fichiers et de la biométrie. On a moins parlé de tout un tas d'autres techniques de surveillance qui jouent aussi leur rôle. Alors, quand on essaye d'analyser, d'abord, on constate que toutes les technologies qui nous arrivent, arrivent toujours pour de bonnes raisons. C'est-à-dire qu'il y a toujours, au démarrage, une raison qui est annoncée, qui est absolument inattaquable. Personne dans le corps social ne défendra Dutroux. Personne ne défendra Thierry Paulin. Donc, on met en place le fichier des empreintes génétiques parce que l'émotion autour des grands crimes sexuels est tellement élevée que ça paraît tout à fait légitime. Dans le même ordre d'idées, on parle aujourd'hui du RFID dans le Pass Navigo. D'où ça vient le RFID? La techno, ça fait 60 ans qu'elle existe. C'est une techno de la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'identification ami-ennemi des avions. Elle est réactivée lors de la Première Guerre du Golfe. La Première Guerre du Golfe, la plus grosse opération logistique jamais menée par l'armée américaine, plus importante que la Seconde Guerre mondiale, et un bordel immonde. Des camions qui sont dans un bateau, des pièces de rechange de camions qui sont dans le conteneur dans un autre bateau, et aucun moyen de savoir comment relier le camion à ces pièces de rechange. Donc, cette techno existe, on l'applique à la logistique. Tout le monde trouve ça normal, qu'est-ce qu'on en a à foutre de toute façon? Et puis arrivent les grandes crises sanitaires des années 90, la vache folle, etc. Et on commence à taguer tous les troupeaux. Là encore, c'est parfaitement légitime. On veut avoir la traçabilité alimentaire, donc c'est tout à fait légitime. Et puis arrive une directive européenne qui fait que maintenant on va taguer aussi tous nos animaux de compagnie. Et on transforme tous nos vétérinaires en auxiliaires, accessoirement, de la mise en place d'un système de fichage. Et là encore, on voit peu de réactions. Et bien évidemment, quand arrivent les premières expérimentations sur l'homme, la motivation, elle est bonne. C'est le dossier médical. Vous comprenez, ces pauvres gens qui ne se rappellent plus qui ils sont, ça sera bien pratique, avec un simple lecteur, d'avoir accès à leur dossier médical qui est sous-cutané. Eh bien, ce que voit là, au travers de l'exemple du RFID, c'est une séquence de, je dirais même pas d'acceptation, parce qu'on nous a jamais demandé notre avis. Mais on laisse passer pour de bonnes raisons, puis pour des raisons un peu moins bonnes, puis encore un peu moins bonnes, puis à l'arrivée, on se retrouve face à un système qui s'est mis en place, parce que qu'est-ce qui s'est passé entre le RFID logistique de 91 et le RFID d'aujourd'hui? C'est qu'à partir du moment où vous avez la mise en place de ce genre de puces pour des millions et millions d'animaux, les gens qui s'occupent de la miniaturisation, de la production en gros volume, etc., ont fait leur boulot. Donc le coût du RFID a incroyablement baissé. Et donc là où on ne pouvait le mettre que sur des objets de très grand prix il y a 15 ans, on peut aujourd'hui le mettre dans un pass Navigo ou dans un billet de la Coupe du Monde de foot en 2006. Donc vous voyez comment, par une séquence de non-décision, eh bien, on arrive à ce résultat. Alors, il faut aussi voir que notre acceptation, elle passe par le fait que ça nous rend des services. Toutes les enquêtes, la RATP a été beaucoup critiquée autour du pass Navigo, toutes les enquêtes faites auprès des utilisateurs de la RATP, c'est du 95%, c'est vachement mieux que le vieux ticket qui se coinçait. C'est-à-dire que la première vision de l'usager, là je me place vraiment en tant qu'usager, c'est que le système, il nous rend des services, on n'a plus besoin de chercher au fond de notre poche ou de notre sac où se trouve ce foutu ticket ou cette foutue carte orange, on fait juste passer le sac de l'extérieur et ça marche. Donc on est toujours avec cette idée que ça nous rend des services. Regardez le changement en l'espace de 5 ans, dans tous les grands magasins, grandes surfaces, magasins spécialisés, vous avez la carte Fnac, vous avez la carte Auchan, vous avez la carte Champion. Et regardez à la caisse, la moitié des gens l'ont. En gros, la carte Fnac, la carte Champion, la carte Auchan, ça donne exactement les mêmes cadeaux de pacotille qu'avant, quand on vous donnait des bons de réduction. C'est pareil que les points BP, pareil. La seule différence, c'est que progressivement, ça profil, du profilage, c'est-à-dire que ça profile votre profil de consommateur. Alors il ne faut pas non plus partir dans la parano, il n'y a pas une interconnexion de toutes les cartes de tous les magasins avec le fichier des banques, etc. Ça, ce n'est pas vrai. Mais néanmoins, ce profilage, il commence à définir votre identité de consommateur et c'est cette identité-là qui intéresse les magasins. Regardez l'explosion du GPS. En l'espace de 3 ans, on est passé de personne n'a un GPS à tout le monde a un GPS. Est-ce que les Français se perdaient beaucoup plus il y a 5 ans qu'aujourd'hui ? Pas vraiment. Mais néanmoins, à un moment donné, on a estimé que le service rendu par le GPS était devenu un service extraordinaire et qu'il fallait absolument l'avoir. Sauf qu'on n'a pas encore eu en France qu'on commence à voir aux États-Unis. Si je prends cet exemple du GPS, un événement intéressant a eu lieu l'an dernier au printemps dans la baie de San Francisco. Au départ, c'est un bête accident, un camion qui se casse la gueule dans un échangeur d'autoroute, juste le plus gros échangeur d'autoroute de la baie de San Francisco, celui du Bay Bridge. Et le pont, l'accès du pont est fermé pendant quelques jours parce que le camion a pris feu et ça a endommagé la structure. Ça se passe un dimanche matin. Le dimanche après-midi, tous les services de cartographie en ligne de Google, de Yahoo, etc. avaient modifié leur cartographie en mettant que ce pont n'existait plus, de manière à ce que les logiciels qui vous donnent votre route ne puissent plus passer par ce pont. Incroyable témoignage d'efficacité. Le seul truc, c'est que chacun avait utilisé des routes de secours différentes. C'est-à-dire qu'il n'y avait eu aucune coordination entre tous les fournisseurs de services. Le lundi matin, les habitants de la baie de San Francisco, 800 000 personnes utilisent leur GPS pour éviter les embouteillages sur l'ensemble de la baie de San Francisco. Branchent leur machin, sont guidés par leur machin, sauf qu'ils ont chacun un système différent qui les guide, chacun dans des directions différentes. On aurait pu espérer que tout ça s'équilibre un peu. Ça, c'est pas du tout équilibré. Ça a fait le plus gros embouteillage qu'on ait jamais vu dans la baie de San Francisco. Le résultat, c'est que 2 jours après, reprenez les documents officiels, la presse de l'époque, 2 jours après, vous avez des attaques de la part des citoyens et des employeurs contre l'État de Californie en disant c'est quand même incroyable, on est capable d'avoir une vision du champ de bataille à Bagdad, on peut pas l'avoir à San Francisco. Et on décide quoi ? De remettre un coup de technologie. Donc on attend des services, mais progressivement on va aussi avoir des attentes vis-à-vis des conséquences de ces services. Alors, l'autre grand driver, on peut dire, chez nous, c'est la rapidité. Hein, ça nous accélère la vie. Alors, j'ai un exemple. On a parlé des problèmes d'accès dans les avions. Depuis le 11 septembre, c'est vrai que toute personne qui voyage beaucoup en avion sait qu'il faut s'y prendre plus longtemps à l'avance parce que les contrôles sont lents, etc. Sauf que commence à arriver un certain nombre de systèmes de fast track, un couloir qui vous permet de passer tout de suite en évitant l'essentiel des contrôles parce que vous avez fait de vous-même l'effort d'aller vous enregistrer auprès d'une compagnie privée, mais qui a un accord avec les États. Alors, en France, ça existe. Hein, l'aéroport de Nice l'a déjà. Mais aux États-Unis, c'est quasiment déjà dans tous les grands aéroports. Et donc, vous avez des sociétés privées qui vous vendent un abonnement. En échange de cet abonnement, vous allez donner beaucoup plus de données biométriques que qui que ce soit n'en donnera jamais. Donc, vous êtes considéré comme quelqu'un de tellement fiable qu'on... On se demande pourquoi on ne vous donne pas le prix Nobel. Et vous pouvez, de ce fait, passer plus vite. Et quand ces systèmes se sont mis en place, c'est pendant l'été 2006. Moi, je suis allé sur les blogs d'utilisateurs des transports aériens, etc. Et il y avait beaucoup de débats. Est-ce qu'il faut utiliser ce machin-là? Est-ce qu'il ne faut pas l'utiliser? Quand même, on donne beaucoup d'infos. Et j'ai trouvé une réaction d'un internaute. Alors, ça n'a valeur que d'une personne, mais je trouve ça très révélateur. Le gars dit, ouais, quand même, j'espère que la boîte à qui on a donné ces infos, j'espère quand même qu'elle a un putain de système de sécurité, parce qu'on leur a quand même donné beaucoup de choses. Mais en même temps, je serais tellement content de faire un bras d'honneur à tous les cons qui font la queue. C'est-à-dire que voilà, et là on tombe sur tous les phénomènes de type « je veux être le premier, je veux être le meilleur, je veux avoir l'outil technologique qui me différencie de la masse, etc. » Voilà, si vous avez un téléphone portable cher, vous êtes mieux localisable que si vous avez un téléphone portable pas cher. Donc finalement, les téléphones portables rustiques, c'est, si vous n'avez pas envie d'être localisé, c'est mieux. Donc, l'aspect égo joue. Et puis aussi, un dernier élément que je voudrais mettre en avant, c'est qu'on fait confiance. Alors, je voudrais utiliser l'exemple d'Edwige parce qu'il me paraît révélateur, mais sous un angle qui n'a pas été abordé cet après-midi. Au moment d'Edwige, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une mobilisation, ça a été dit, tout à fait exceptionnelle. Et la mobilisation a été d'autant plus exceptionnelle que les groupes qui luttaient contre Edwige ont fait un truc très simple, mais très intelligent. Ils ont mis à disposition de tout le monde le texte. Et là, d'un seul coup, on a vu tout le monde commencer à lire le texte, qui était un arrêté ministériel, et être totalement effaré de la manière dont ce machin était écrit. C'est-à-dire que les gens lisent le texte et se disent « mais merde, c'est écrit avec les pieds ce truc ». C'est-à-dire qu'il y a l'article 2 qui contredit l'article 4, le 4 qui est légèrement ambigu alors qu'il y a une clause qui ne marche que dans le 4.1 mais peut-être pas dans le 4.3, etc. Et on se dit « c'est la porte ouverte à n'importe quoi ». Et moi, je ferai une analogie là-dessus avec ce qui s'est passé en 2005 sur le référendum de la Constitution européenne. C'est-à-dire que globalement, en tant que citoyen, on a fait confiance. On a fait confiance aux gens qui décident en notre nom, c'est-à-dire qu'ils font des lois, donc on pense qu'ils font un peu attention à la manière dont ils les écrivent, qu'ils mettent des garde-fous, etc. Et puis quand on se retrouve un jour confronté au texte, on est effaré. Et vraiment, c'est cet aspect-là joue énormément, c'est-à-dire que fondamentalement, on l'a dit souvent depuis le début de cette journée, il n'y a pas une énorme réaction face à ces problèmes-là. Les réactions en général, alors les gens qui réagissent, c'est qui? Les gens qui se sont pris un problème dans la figure. Des gens qui se sont fait refuser un emploi à Roissy alors qu'ils n'ont jamais rien fait, simplement parce qu'ils étaient dans le stick. Donc alors eux, ils réagissent, mais en gros, tout le monde s'en fout. Edwige, je suis désolé, pourquoi une telle réaction sur Edwige? Ben, y a eu un relais extraordinaire des médias parce que ça concernait les journalistes. C'est bien la première fois que c'était un fichier qui concernait aussi les journalistes. À mon avis, si les journalistes étaient sans papier, on lutterait contre les fichiers de sans papier. Donc, il y a, en gros, les réactions, elles arrivent souvent très, très tard. Un autre point qui fait qu'on a du mal à réagir, c'est qu'on n'y comprend rien. On a eu un exposé absolument remarquable là tout à l'heure sur les nanotechnologies, etc. C'est très très rare de voir quelqu'un expliquer les nanotechnologies de façon aussi simple que ça, et simple et juste. C'est-à-dire qu'on arrive aussi tous, chacun d'entre nous, à nos limites de compréhension. Oui, il y a des caméras partout. Oui, toutes ces caméras, mais est-ce qu'elles sont interconnectées? Est-ce qu'elles sont interconnectables? Est-ce qu'elles sont branchées? Est-ce qu'elles sont branchables, etc. On n'en sait rien. On nous dit qu'on arrive à voir des armes de destruction massive en Irak avec des images satellites. Bon, moi, je veux bien. Ça, c'est mon métier. Le problème, c'est qu'on n'arrive même pas à compter des réfugiés, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a un décalage très fort entre la réalité, ou l'image qu'on s'en fait, ce qui est possible, plausible, ce qui n'est pas possible, et on va finir par mélanger un petit peu tout ça. Alors, je voudrais, pour terminer, essayer de faire un focus sur cet aspect-là. C'est-à-dire que, globalement, l'ensemble de ces dispositifs de surveillance, quels qu'ils soient, ce sont des systèmes. Et ce sont des systèmes complexes. Les systèmes complexes, ça fait actuellement l'objet d'énormément de travaux de recherche. Vous avez des labos entiers au CNRS ou ailleurs qui bossent sur les systèmes complexes. Parce que, bah justement, c'est un domaine où... je vais prendre une mauvaise analogie, mais par simplification d'effet papillon. Voilà, c'est des systèmes dans lesquels, quand on fait bouger un petit truc à un endroit, on ne sait pas tellement quelles conséquences ça a à l'autre bout du système. Mon analogie est mauvaise, mais au moins elle a le mérite d'être claire. Un système complexe. Prenons un maire qui a été auprès du fonds de développement de la sécurité là, et qui a eu droit à sa subvention pour mettre 3 caméras. C'est quoi un système de vidéosurveillance? C'est des capacités technologiques intrinsèques. Qu'est-ce que cette caméra sait faire? C'est est-ce que cette caméra répond aux besoins pour lesquels elle a été mise en place? C'est est-ce que cette caméra est déployée au bon endroit et est-ce qu'elle est déployée au bon moment? C'est est-ce que les gens qui sont derrière sont bien formés? Est-ce qu'ils sont compétents? C'est est-ce qu'ils sont là? C'est-à-dire, est-ce qu'on a tout prévu? Est-ce que vraiment, H24, il y a vraiment du monde derrière qui est là pour relayer les alertes, etc. Est-ce que la chaîne de commandement au-dessus est compétente? C'est-à-dire, si le mec qui est derrière la caméra, dès qu'il a vu quelque chose, il appelle juste l'adjoint au maire, ça n'a peut-être pas déclenché un truc terrible au niveau de la réaction. Est-ce que on a prévu les réactions aux dysfonctionnements? Est-ce qu'on a prévu les réactions aux attaques? On est en train de mettre en place, de stocker de l'information. Est-ce que cette information est protégée? Protégée dans les deux sens, hein. Est-ce qu'elle ne se dégrade pas? Or, on sait que c'est le cas. La plupart des vieilles données scientifiques des années 70, on n'arrive plus à les relire parce qu'on a mal protégé le média. Donc, est-ce qu'elle est protégée? Et puis, s'il y a des dysfonctionnements, quelles sont les procédures? Enfin, est-ce que ce système est capable d'évoluer? On a quand même des ministres qui comptent les caméras en nous disant il y en a 500 000, il y en a 300 000, il y en a 1 million, etc. En mélangeant tout. Des caméras de circulation d'il y a 10 ans avec des caméras de banque, avec des caméras de magasin, avec des caméras de voie publique, etc. On mélange totalement des pommes et des oranges et on dit tout ça, ça fait un dispositif de surveillance. Ce faisant, moi je suis pas un propagandiste de ces genres de dispositifs, mais pour les gens qui en sont les propagandistes, on ne peut que dire qu'ils prennent un gros risque. Parce qu'en gros, ils leurrent le public sur l'efficacité du système. En prétendant que ce système est opérationnel, interconnecté, interopérable et efficace 24 heures sur 24, fondamentalement, ils mentent. Ils en savent peut-être rien. Donc, on a là un point où on finit par perdre le sens des réalités. C'est-à-dire que c'est très compliqué de faire la part de la réalité de la fiction. Je prendrai juste un petit exemple. Pardon ? Il y a un portable là ? Ah non, pas moi. Non, j'ai pas de portable. Ah ben non. Je prendrai un petit exemple. Il y a un débat. Vous pouvez aller sur le site de Rue 89. Il y a un débat extraordinaire depuis un mois et demi sur l'écoute. Le point de départ, c'est un journaliste de Rue 89 qui dit qu'il est spécialiste en nouvelles technologies, qui dit « j'ai un pote dans les services secrets, il m'a expliqué ce qu'on savait faire avec un téléphone, même quand il était éteint totalement ». Et là, c'est extraordinaire à regarder. C'est-à-dire que depuis un mois, ça se déchire à coup de un thésard qui vient expliquer que oui, scientifiquement, c'est possible si je fais ceci, cela. Un mec de chez Alcatel qui vient dire non, mais attendez, vous rigolez. Nous, en tant qu'industriels, on ne se risquerait pas à faire une connerie comme ça, etc. C'est-à-dire qu'on est sur un sujet qui, en apparence, est simple. Est-ce qu'un téléphone, quand il est éteint, peut être écouté ou pas? A priori, il n'y a que deux réponses possibles, oui et non. Ben, on se rend compte que la réalité est beaucoup plus complexe que ça et que très très peu de gens sont capables de dire « bon, attendez, je vais vous expliquer et on arrivera à faire un consensus sur la réponse ». C'était portable. Donc, voilà, c'est juste un exemple. Alors, pourquoi, quand on est dans cette situation un peu compliquée où on est obligé de faire confiance mais on n'a pas vraiment confiance, finalement, à quoi on se raccroche? Et j'en terminerai par là. Alors d'abord, le truc tragique, c'est qu'on se raccroche à des chiffres magiques. Ça, on le fait tous. Alors nos politiques en jouent, les médias fonctionnent que là-dessus, mais nous aussi. Moi, je suis dans le monde de l'observation spatiale. Depuis 25 ans, on me demande si on peut lire ou pas une plaque d'immatriculation depuis l'espace. C'est un truc qui a strictement peu d'intérêt, parce que si la voiture n'est pas garée dans le bon sens, le satellite n'aide pas beaucoup. Il y a plein d'autres paramètres beaucoup plus importants, mais voilà, on est sur ce chiffre magique. On a entendu cet après-midi le chiffre magique des 4 millions de caméras. On y a droit très très régulièrement. Et à la limite, ça ne fera peut-être pas plaisir aux militants associatifs qui sont dans la salle, mais on y a droit autant de la part des propagandistes de la surveillance que des opposés, parce que finalement, plus on annonce un chiffre gros, plus Goliath est gros et dangereux, et voilà. On se pose très peu la question de qu'est-ce qu'il y a derrière le chiffre magique. Et puis, il y a les sondages. 71% des Français sont pour la vidéosurveillance. Alors ça, si vous ne l'avez pas entendu, depuis que notre ministre de l'Intérieur l'annonce à chaque réunion, bon. Le pire, c'est que le sondage n'est pas truqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai. Bon, comme ça a été très bien dit juste dans des présentations précédentes, une opinion, ça fluctue. Hein, ça pourrait dire le contraire dans 5 ans. Mais aujourd'hui, ça dit ça. Et je crois, et je terminerai par là, ça, c'est intéressant de se poser la question, pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que ? Est-ce que c'est le discours de nos politiques ? Sûrement un petit peu. Après tout, on les a élus, donc c'est bien la preuve qu'ils sont un petit peu populaires. Est-ce que c'est le discours des médias ? On est très, très prompt en France à taper sur les médias de ce point de vue-là. Quand on analyse toute la presse, de gauche comme de droite, conservateurs, etc., sur les deux dernières années, quand on regarde les reportages, y compris ceux de TF1. Sur les deux dernières années, vous vous apercevez que sur les aspects surveillance, la tonalité générale est globalement négative, même sur TF1. On vous fait des reportages sur Londres qui se terminent par « ouais, ben en fait, finalement, ça marche pas si bien que ça ». Donc, c'est pas tant que ça, les médias. Et moi, je proposerais bien une explication, c'est que entre le journal télévisé de TF1 et 3 épisodes des experts après, c'est sûrement plus les 3 épisodes des experts qu'on va croire. Et là, il y a un rôle colossal de la fiction. C'est-à-dire qu'il y a eu un changement très fort de la fiction et en particulier de la fiction télévisuelle depuis Urgence. C'est-à-dire que quand je lisais Jules Verne, quand j'étais gamin, je me disais « waouh ! » Mais je ne confondais pas avec ma réalité. Et un gamin qui a lisé Jules Verne en 1890-1895, il ne confondait pas avec la réalité. Quand je vais voir un James Bond, je ne confonds pas avec la réalité. Je suis clairement au cinéma et je suis clairement dans un truc qui, où j'ai une certaine distance. Ce qui se passe avec la fiction télévisuelle, c'est d'abord l'effet de série. Grissom, c'est un ami de la famille, quoi. Ça fait 8 ans qu'on le connaît, on le voit toutes les semaines. Donc, fondamentalement, c'est quelqu'un qui nous est proche. On a vu arriver sur toutes les télés des scientifiques à l'éthique irréprochable. Des gars, nickel. Ils font toujours les choses bien. Ils commettent jamais d'erreur au niveau technique. Moi, je suis scientifique. Jamais avoir commis d'erreur, je me poserai des questions. Ils sont toujours pour le bien. Et puis, on en a parlé tout à l'heure à propos de la vidéosurveillance. Ils commencent à bosser quand le crime a déjà eu lieu. Donc, ils sont dans une recherche scientifique où on connaît le point d'arrivée et on retourne vers les origines. Finalement, c'est des astrophysiciens du crime. Le problème, c'est que ce que nos politiques nous vendent, c'est juste l'inverse. C'est la prévention de la délinquance. C'est Laurent Bonelli en a très très bien parlé tout à l'heure. C'est juste le phénomène inverse. Or ça, Grissom, il ne le fait pas. Jamais dans Les Experts, vous les verrez prévenir les crimes. Et on regarde ces gars-là qui utilisent des technologies extraordinaires. L'ensemble des technos qu'ils utilisent sont réels. Ça, c'est la grande force de la fiction américaine, c'est qu'ils sont incroyablement bien documentés. Ils ont des consultants qui sont des vrais professionnels. Les gestes sont réels, les outils sont réels. Ils ont juste tous les moyens à leur disposition et ils savent se servir de toutes les technologies, ce qui les rend extraordinaires. Mais globalement, les technos sont réels. Par contre, il y a plein de raccourcis et c'est dans ces raccourcis-là qu'on se perd. Quand l'équipe des experts reconstitue le parcours d'un meurtrier, elle va sauter de caméras bancaires à des caméras de circulation, à des caméras de voie publique, à des caméras de magasins, etc. D'un simple clic, toutes les caméras sont interconnectées, toutes les images sont archivées et tout marche. Bon, il n'y a pas un flic français qui sait faire ça. Hein, parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité. Là, on est dans un truc qui est très complexe, c'est-à-dire qu'on a des personnages de fiction qui sont très documentaires, qui nous vendent. Alors, je rappelle quand même que aux États-Unis, ces fictions-là arrivent en 2000, pas en 2001, donc un an avant le 11 septembre. Il y a une bascule aux États-Unis en l'espace de un an. CBS devient la chaîne leader. Alors, quand ils deviennent la chaîne leader, ils savent que la martingale fonctionne. 16 heures de programme par semaine avec ce type de techno. Oui. 16 heures par semaine en prime time. Ben regardez en France, les programmes les plus regardés, c'est les mêmes, hein, NCIS, etc. Donc on est complètement dans ce mélange fiction-réalité et ben on a du mal à faire la part des choses. En conclusion, est-ce qu'il y a des parades et est-ce que dans nos comportements, on voit des parades? La réponse est oui. On voit en particulier du retournement de surveillance. Alors, moi, j'ai un bon exemple dans mon domaine qui est la surveillance GPS spatiale, etc. C'est Katrina. C'est-à-dire qu'au moment de Katrina, c'est les citoyens américains qui se sont servis de la directive Clinton de 94 qui donne accès pour les citoyens aux données publiques et qui ont fabriqué à partir des jeux de données de la NASA, de la NOAA, etc., les preuves que le gouvernement Bush ne foutait rien. Et finalement, on a vu arriver via Internet, via le web, on a vu arriver des cartographies qui montraient que rien n'était fait. Ces cartographies étaient faites par des universitaires ou par des simples citoyens qui étaient allés pêcher l'information de surveillance des surveillants. Eh bien, ce genre de retournement, on commence à en voir de plus en plus. Et je pense que c'est un élément très, très important. De non seulement de contester, mais aussi de prendre l'outil et de le retourner. Voilà, j'en ai terminé.